Et bonjour, bienvenue sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne pour ce journal de midi. Comme d'habitude, nous allons voir ce petit journal d'actu. On va tout de suite commencer par les prérogatives de l'ARCOM, évidemment. Vous pouvez nous écouter évidemment sur la bande FM 91.3. C'est évidemment la première méthode. La deuxième, évidemment, c'est le web avec la rediffusion de toutes les émissions et ainsi que la radio en direct. Et enfin, il y a le DAB ou DAB+, hein, la radio numérique terrestre numérique. Voilà. tout de suite, le sommaire, on va un petit peu vite aujourd'hui, puisque ce n'est pas le présentateur habituel. Nous allons évidemment commencer par quelques brèves présentées par Romain ici présent. Et ensuite, nous enchaînerons avec l'interview de Coraline, la journaliste de l'Écho des Collines. Et enfin, à 12h30, nous enchaînerons avec l'objectif emploi présenté par Chloé sur Handiwork, une entreprise favorisant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mais tout de suite, nous allons commencer par quelques brèves que va nous décliner Romain. Bonjour Romain.
Bonjour Hugo, bonjour Coraline et bonjour à toutes et à tous. La tempête Niels s'est enfin calmée sur la rive droite bordelaise, bien que des possibles rafales de vent violents peuvent être attendues en fin de journée. Ainsi, la mairie de Senon a décidé de laisser fermer les parcs et les jardins de la ville jusqu'au 18 février inclus. À noter que les dégâts matériels que vous avez subis durant le passage de la tempête peuvent être déclarés en mairie. Toutes les informations complémentaires sur le site senon.fr. Cette semaine, la mairie de Florac propose de broyer gratuitement vos feuilles et vos branches. Le principe est simple, une fois vos végétaux ramassés, il vous suffit de vous rendre sur le terre-plein de l'avenue François Mitterrand, où un dépôt sera accessible tous les jours de 10h à 18h jusqu'à samedi prochain inclus. Un très bon moyen de se débarrasser facilement et gratuitement des dégâts causés par le passage de la tempête. Voici revenu le temps de la bonne adresse, s'exclame la mairie d'Artigues près Bordeaux, qui relance son appel à manifestation d'intérêt sur son centre-bourg et plus précisément sur l'ancienne école Bel Air, dans laquelle un local, son ancienne cuisine, reste encore vacant. Pour le dernier espace vide de son ancienne école, la mairie d'Artigues près Bordeaux indique alors privilégier le champ de l'économie sociale et solidaire. Les porteurs de projets ont jusqu'au 17 avril pour envoyer leur candidature à la mairie. Pour rappel, les autres parties de l'établissement ont déjà transformé le lieu avec une halle du marché livrée lors de l'été 2024, la place du parc lors de l'été 2025 et la résidence intergénérationnelle de commerce qui devrait ouvrir ses portes fin 2026.
Merci Romain pour ces quelques brèves. Du coup, tout de suite, on va enchaîner avec l'interview. Donc déjà, bonjour Coraline.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Donc Coraline Bertrand, je suis journaliste à l'Écho des Collines depuis 2020 et on vient présenter notre nouveau numéro de février.
D'accord. Est-ce que, un petit peu avant de présenter le numéro, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association autour de l'Écho des Collines ?
Alors, l'Écho des Collines est édité par l'association L'Autre Rive, qui est une association qui existe depuis près de 30 ans, qui a donc deux activités. La publication de ce magazine mensuel, L'Écho des Collines, qui a été fondé au départ pour donner une autre image de la rive droite de Bordeaux, qui a évolué dans le temps, qui était très mauvaise à l'époque et qui est un peu meilleure maintenant, mais voilà, pour parler de cette rive assez méconnue. Et notre deuxième activité sur laquelle on souhaite justement mettre davantage l'accent, c'est nos cours de français langue étrangère, qui s'adressent donc à des étrangers fraîchement arrivés en France, qui veulent apprendre le français et surtout passer les examens pour obtenir des papiers, obtenir la nationalité. Et voilà, on est la seule association sur la rive droite à faire passer les examens, enfin préparer les élèves aux examens.
D'accord. Donc déjà une volonté d'inclusivité. qui est important de notre jour. Du coup, sur l'Écho des Collines ce mois-ci, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le dossier
Alors, pour ce mois de février, on a fait un dossier sur les petits théâtres de la rive droite, donc un dossier culturel, sur des petites salles souvent méconnues, donc on en a listé quelques-unes. On a parlé du Poquelin Théâtre qui est à Bordeaux-Bastide, qui est le plus petit théâtre de Bordeaux, qui a 19 places, ils peuvent pousser jusqu'à 30, mais vraiment c'est vraiment un tout petit théâtre qui... qui joue du théâtre d'auteur, classique, contemporain, voilà, français et étranger, et qui se revendique comme voilà, un lieu de résistance culturelle, on va dire. Et donc, il joue des, voilà, de grands auteurs, Tchekhov, Marguerite Duras, mais aussi des auteurs locaux ou pas, d'ailleurs, comme Marc Lausson, Michel Suffren, enfin, des auteurs parfois encore contemporains. On évoquait aussi le théâtre Alizé, qui a ce nom et qui sont nos voisins, d'ailleurs, dans nos locaux. Donc, le théâtre Alizé, qui, lui, existe depuis 39 ans, qui a été fondé donc, par Francis Brel, donc, dont on fait aussi le portrait, qui est quelqu'un de très engagé... très engagé enfin, dans la défense du théâtre. On a évoqué aussi le Théâtre du Fleuve, qui est à Lormont, qui est un théâtre plus récent, qui lui joue pas mal de pièces, de spectacles pour enfants, mais pas que, et qui accueille aussi des ateliers du cours Florent. Et on a aussi évoqué le théâtre du Jonchet, qui est donc situé en Entre-deux-Mers, et qui lui, enfin, le patron de ce théâtre, disons, revendique le fait que la... Ah oui, c'est à Cambes, c'est ça, je ne retrouvais pas, excusez-moi. Donc l'état du Jonchet qui est à Cambes, voilà, donc en Entre-deux-Mers, et qui défend le fait que le théâtre vivant a un prix qui, est pas, qui peut être modique. Hein, d'ailleurs, ils font des efforts en termes de tarifs, puisque leurs places sont à 12 ou 14 euros, mais voilà, qui essayent de se battre un petit peu contre ce concept de gratuité. Voilà, qui se développe notamment avec voilà, des petites vidéos sur Facebook, des choses comme ça. Voilà, lui, il essaye de dire non, mais le théâtre vivant, si on veut que ce soit un peu bien fait, ça a un prix. Et voilà, comme je disais, il n'a rien contre les troupes amateurs, mais il revendique le fait de faire du théâtre voilà, professionnel.
Ouais. Du coup, vous mettez donc les petits théâtres en avant. Quelle importance, selon vous, ont ces petits théâtres, que ce soit sur la rive droite ou même en général hein?
Ben, je pense que l'intérêt des petites salles de théâtre, c'est qu'elles elles permettent quand même de rendre la culture et le théâtre plus accessible à tous, parce que bon, tout le monde ne s'intéresse pas forcément au théâtre, mais avoir une petite salle à côté de chez soi, si on n'a jamais été au théâtre, ça fait peut-être entre guillemets un petit peu moins peur que d'aller au Grand Théâtre à Bordeaux. Ça coûte moins cher aussi, comme on disait, et on peut avoir des spectacles de grande qualité même dans des petites salles, quoi. Et surtout, voilà, l'intérêt de ce dossier, c'était de montrer aux habitants de la rive droite qu'il y a des salles à côté de chez eux, justement, des salles parfois comme on dit, méconnues, des petites salles qui, voilà, dont ils n'ont pas toujours entendu parler, mais qui font voilà, un travail de qualité et qu'on n'est pas obligé d'aller à Bordeaux-Centre pour sortir au théâtre. Quoi.
Ok. Mais du coup, c'est aussi pour mettre en avant l'importance de l'accès à la culture, finalement, pour tous. Et,
Oui, c'est vraiment ça l'idée, c'est de montrer que la culture, c'est voilà, c'est parfois vraiment oui juste à côté de chez soi, c'est pas forcément compliqué d'y avoir accès, puisque comme on disait voilà, les théâtres dont on parle notamment en termes de tarifs, hein, comme on disait, c'est parfois pas très cher, hein, c'est 12 ou 14 euros la place, bon au final c'est le prix d'une place de cinéma quoi, ou quasiment, et ça permet justement de sortir un petit peu peut-être de sa zone de confort et de faire une autre sortie que d'aller au cinéma ou de regarder une série sur Netflix, quoi. Parce que voir des gens jouer sur scène, bah, ça n'a pas le même impact. Et surtout, bah, suivant les textes qui sont joués, c'est une autre, c'est une partie du patrimoine culturel et c'est une autre façon de, voilà, de se divertir.
D'accord. Pourquoi, selon vous, il y a pas élitiste non plus, mais ce côté avec le grand théâtre, cette image que peut avoir le théâtre de spectacle peut-être un peu riche ou du moins dédié à une classe sociale qui là du coup est complètement démontée ici avec
Les théâtres traditionnels, enfin par exemple le grand théâtre Bon, déjà, ne serait-ce que le lieu est assez imposant, la salle, c'est des théâtres classiques où, alors, qui sont magnifiques, hein, d'ailleurs, quand on, si, enfin, pour les gens qui n'ont jamais été à l'intérieur, voilà, il y a des moulures, il y a, de, y a des, enfin, des dorures partout, c'est du théâtre voilà, ancien, d'époque, et qui, oui, qui peut faire un petit peu peur parce que. Parce que si on n'a pas du tout l'habitude d'y aller, on peut se dire que c'est pas pour soi et qu'en effet, là pour le coup, aussi bah que les tarifs, mais en termes de tarifs, c'est quand même parfois un peu moins accessible, puisque suivant les spectacles qui sont joués, enfin notamment si c'est au grand théâtre, bon c'est plus de l'opéra, mais bah ça peut aller à 40, 50, 60 euros la place. Bon bah oui, tout le monde n'a peut-être pas ces moyens-là, donc déjà bon, il y a ce côté élitiste, il y a cette barrière financière, et puis bah c'est se plaignait un de mes interlocuteurs là, responsable du Poquelin Théâtre, qui trouvait que il y avait une sorte de déculturation aujourd'hui dans la société où on ne même dans les établissements scolaires en fait on promeut pas suffisamment le théâtre même auprès des jeunes, et donc selon lui il y a toute une génération qui déjà n'a pas l'habitude d'y aller et qui estime que peut-être que c'est un truc de vieux, je sais pas, d'aller au théâtre, mais qui déjà n'a pas du tout cette culture du spectacle vivant, ou alors autre que les stand-up ou le théâtre d'impro par exemple, qui est bien aussi, mais c'est très différent. Enfin, c'est pas du tout la même chose que d'apprendre un texte et de le jouer, quoi.
Est-ce que il n'y a pas aussi une au-delà de la déculturation, enfin, si j'ai bien prononcé, c'est difficile. Est-ce que vous pensez pas que quelle importance selon vous peut avoir le gouvernement ou même à plus petite échelle la mairie sur ce manque de mise en avant du théâtre ou du moins cette image un peu vidéote, hein.
Bah, je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans le sens où soit ils peuvent subventionner leur moyen d'agir, en tout cas au niveau par exemple des municipalités, ce serait de subventionner ce genre de théâtre et puis de eux-mêmes en faire la promotion à travers leur publication et ou même parfois juste à travers des subventions. Après là en l'occurrence les salles qu'on avait sélectionnées, c'est vrai qu'on avait fait exprès de sélectionner des salles qui sont pas municipales, c'est des théâtres pour la plupart associatifs ou en tout cas montés par du privé, mais là où ils sont parfois aidés, c'est même si c'est pas via une subvention proprement dite, ça peut être d'avoir un local, ne serait-ce que déjà de les loger, ça les aide beaucoup. Le Poquelin Théâtre, par exemple, ils sont logés dans les anciens bains-douches de Bordeaux, et donc le patron m'avait dit que voilà, à l'époque, donc c'était en 2011, il s'était battu auprès de d'Alain Juppé pour conserver, enfin pour pouvoir s'implanter dans ce lieu plutôt, et plutôt que ces bains douches soient détruits, et ben lui dire écoutez, laissez-les nous et nous on va s'y installer, quoi. Donc déjà voilà, ne serait-ce que faciliter leur installation ou leur donner un local, ça aide, quoi. Jean-Claude Mémery, voilà, je recherchais le nom du patron du Poquelin Théâtre, Jean-Claude Mémery. Voilà, c'est lui qui m'avait dit ça, et voilà, lui, par exemple, il nous dit que voilà, ça l'a aidé à l'époque à s'installer.
D'accord. Maintenant qu'on a un petit peu couvert ce dossier sur le théâtre, est-ce que vous nous parlez un peu de la suite du magazine, peut-être
Alors, parmi les autres sujets qu'on a traités, on a fait un petit sujet sur justement nos ateliers de français langue étrangère, parce que comme on disait, on est dans une petite phase de on repense un peu notre communication et l'idée c'est de mieux mettre en avant nos deux activités. Donc on a fait un article pour présenter donc ces cours de français langue étrangère et donc en quoi ils sont différents de ce que propose le CLAP ou d'autres associations. Donc comme je disais, le but c'est de former les étudiants jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui ont 50 ans, hein, bien sûr, qui arrivent pour apprendre le français, et donc de les former pour qu'ils présentent ce qu'on appelle le DELF, donc le diplôme d'études de la langue française. Et voilà, il y a plusieurs niveaux suivant les compétences qu'on a, quoi. Donc voilà, donc nos animatrices, Maryse Roqueton et Catherine Roncier, voilà, forme les élèves à l'obtention de ce diplôme. On a évoqué aussi, là, pour clore notre dossier là, sur les petits théâtres, on a évoqué l'association La Rurale, qui elle donc n'est pas, pour le coup c'est pas un théâtre en soi, mais donc c'est une association culturelle et artistique qui est basée à Créon et qui elle voilà organise des spectacles et voilà promeut la culture sur son territoire. Et donc là on a toute une interview de Carlina Cavador qui est donc la directrice artistique et la programmatrice de cette association. Voilà, on a évoqué aussi l'amicale des locataires de Beausit qui est donc à ce nom, qui est une amicale très investie auprès des locataires et qui mène pas mal d'actions pour dynamiser son quartier. Voilà, après, on a nos échos des communes où on a évoqué donc, le carnaval des Deux Rives qui se prépare, une exposition à la Maison de la Poterie de Sadi Rac, différents événements. Et on a aussi fait un focus sur... deux clubs d'entreprise donc de la rive droite qui ont été récemment primés, donc le club de Rive Entreprise qui a ce nom et le club entreprise de ce nom, donc voilà deux clubs d'entreprise qui ont été récompensés pour leurs actions. On a fait donc le portrait, comme je disais, de Francis Brel, là, le fondateur et directeur du théâtre Alizée, et ensuite voilà on a nos rubriques traditionnelles, une petite rubrique histoire sur le fait que pendant la guerre de 100 ans, il fallait acheter son armure à crédit. Et ensuite, on a nos bouquinons avec deux propositions de livres à lire. La nuit au cœur et Aïe, un poète.
D'accord. Alors, si je peux me permettre, c'est quand même un concept d'acheter à crédit pour aller à la mort, mais pourquoi pas.
Oui, c'était un peu particulier d'acheter son armure à crédit.
Ils n'ont pas dû en voir beaucoup.
On le raconte.
Maintenant qu'on a, on a couvert un peu le magazine, on va parler très rapidement un petit peu de, parce que là nous avons donc Romain qui nous a décliné les brèves mais qui est aussi en stage
qui est en stage actuellement chez nous, oui.
Voilà, est-ce que du coup pour vous quelle est l'importance un petit peu de la formation des jeunes journalistes?
Ça fait partie de, pour le coup c'est important pour nous, ça fait partie quand même des missions de l'écho où en fait on publie notre magazine et en fait on a tout un aspect, formation, parce qu'on prend régulièrement des jeunes donc en stage et on fait également de l'éducation aux médias, donc on se déplace assez régulièrement dans des écoles, des collèges pour parler des médias, de ce que c'est que l'information, comment on fait un magazine, comment on fait un journal, et donc oui, ça nous tient à cœur d'essayer de former des jeunes. Donc on a des stagiaires et quand ils le peuvent, là, il se trouve qu'on a une jeune étudiante qui va sans doute nous rejoindre pour être rédactrice bénévole. Et donc voilà, l'idée c'est toujours d'essayer de former les jeunes à la base du métier, on va dire.
D'accord. Du coup, vous faites du journalisme local et indépendant. Ouais. Est-ce que c'est très important, à quel point c'est important pour vous que ça reste indépendant et que ce soit que ça reste local, oui, parce que c'est la rive droite, mais que ça reste indépendant?
C'est un point assez essentiel pour nous, même si on est indépendant, même si ça nous empêche pas d'être quand même soutenu par donc des municipalités, on touche des subventions en tant qu'association. Après, c'est important d'être indépendant parce que ça nous permet de rédiger un peu ce qu'on veut, quoi. Enfin, on n'a pas de, notamment par exemple, c'est un point d'honneur de ne pas avoir de publicité dans le journal parce que ça évite d'avoir la pression d'annonceurs qui vous demandent de pas traiter tel sujet parce que ça les arrange pas parce que par rapport à leur business, leur marché, etc. Et même si nous on est un petit média à l'échelle locale, donc c'est pas comme si on subissait des pressions de la part de Bernard Arnault, mais en tout cas ça nous permet de traiter les sujets qu'on a envie de traiter et donc oui, c'est important. Je pense que l'intérêt d'avoir une publication locale associative, c'est qu'elle on traite pas les mêmes sujets que Sud-Ouest, par exemple. Enfin, ça peut arriver, mais il y a plein de sujets qu'eux ne traitent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça, c'est un grand média. Ils n'ont pas forcément le temps d'aller voir toutes les petites associations, etc. Et voilà, nous, l'objectif quand même de notre magazine, c'est de mettre en valeur la Rive Droite, de parler de ce qui se passe vraiment sur le terrain, des habitants, de la vie associative, culturelle, et donc d'aller un petit peu au plus près des gens que par exemple, voilà, un grand journal comme Sud-Ouest qui a encore des correspondants sur la Rive Droite, mais il n'y a qu'un ou deux journalistes qui traitent de la Rive Droite, et comme la Rive Droite, c'est un grand territoire, voilà, ils en parlent, mais dans leur page, il n'y a pas forcément... beaucoup de place réservée à notre territoire. Donc là, pour le coup, l'Écho des Collines, c'est vraiment le magazine de la Rive Droite et qui essaye de traiter un peu de... J'allais dire de toutes les communes. Bon, on ne parle peut-être pas encore de toutes les communes parce qu'on n'est pas complètement partout, on reste une petite équipe, mais voilà, qui essaye de traiter de l'actualité de la Rive Droite sous un autre angle, un angle plus, voilà, plus proche des habitants.
D'accord. Et du coup, vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas de publicité, mais comment ça se passe pour le financement ?
Eh bien, alors, l'Écho des Collines fonctionne avec ses ressources propres, puisque donc on a nos abonnements, nos abonnés et la vente au numéro. Donc déjà, on a des ressources propres. Et après, on touche des subventions. On a des subventions donc de la mairie de Senon. On touche des subventions de la part du ministère de la Culture. Voilà, on touche différentes subventions. Et bon an, mal an, voilà, les choses fonctionnent. Après, voilà, ça reste comme toutes les associations, ça reste un équilibre toujours un peu précaire. On serait toujours mieux avec plus d'abonnés, n'est-ce pas ? Mais donc voilà, on fonctionne avec des subventions et des ressources propres.
Alors, vous avez parlé du coup d'équilibre précaire. Effectivement, c'est malheureusement quelque chose d'assez commun aux associations. C'est compliqué, surtout ces derniers temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous affrontez durant la création de ce journal ou des sujets?
Bon là non, non ça va parce qu'on a un imprimeur qui est fiable, donc ça c'est bon, on a toujours le même imprimeur qui nous lâche pas, donc ça se passe bien. Non, après les éventuelles difficultés c'est dans la fabrication, disons au quotidien du journal où vous calez des sujets, parfois voilà, il y a des sujets qui tombent à l'eau, parfois vous n'arrivez pas forcément à contacter les gens, disons, dans les temps par rapport à vos deadlines. Donc c'est plus ces petites difficultés-là qu'il faut gérer voilà, au moins le mois. Sinon, non, après, voilà, les choses fonctionnent. On est dans une dynamique voilà, qui est quand même bien rodée. Donc non, il n'y a pas de grosses difficultés. On arrive à boucler le magazine tous les mois. Tout va bien.
Ça tombe bien, ça va. Alors on va arriver sur la fin de cette interview. Est-ce que vous avez, comme dernière question, je sais pas, un reportage que vous avez pu faire pour l'Écho des Collines ces derniers temps qui vous a particulièrement marqué ?
Alors récemment, un reportage plus que d'autres. Ouf, là, vous prenez un de cours. Non, peut-être pas un en particulier, mais ce qui est enfin quoi que si, ouais si on peut en parler. Là dans le numéro de février, on a fait un petit reportage sur la boutique sans étiquette à Carignan qui a fêté ses 10 ans. Et là pour le coup c'était un reportage assez intéressant parce que le concept de cette boutique sans étiquette est intéressant dans la mesure où en fait c'est une boutique où tout est gratuit. Les gens, ils récoltent des dons auprès de, voilà, de particuliers, des choses donc toujours en bon état, etc. Et tout type d'objets, hein, déco, vêtements, tout type d'objets. Et en fait, voilà, la philosophie, disons, est intéressante puisque voilà, le concept, c'est de dire, nous, on récupère les choses, on va leur donner une seconde vie, mais donc c'est gratuit. Et comme me disait la présidente, la Christelle Petit, c'est pas, ils se présentent pas comme une association caritative, c'est-à-dire que le but premier, c'est pas forcément d'aider les pauvres, mais c'est surtout de contribuer, voilà, au recyclage, à moins jeter. Enfin, c'est plutôt une dynamique. Le principe, c'est d'abord une dynamique de recyclage et de développement durable. Et donc voilà, là où c'était intéressant, c'était de se dire que ça existe depuis 10 ans. Et elle-même, quand elle a lancé ça, elle pensait pas être encore là 10 ans après avec son association. Et pourtant, bah voilà, le concept fonctionne bien. Donc ça, c'était intéressant.
Ok. excusez-moi. Est-ce que vous avez, avant qu'on conclue, est-ce que vous avez une dernière chose à dire peut-être?
Eh bien, lisez l'écho des collines. Hein. Lisez l'écho des collines. Non, c'est un magazine qui a besoin aussi de soutien, de lecteurs. Et pour voilà, les habitants de la Rive-Droite, c'est un magazine qui est intéressant à découvrir. Voilà, on a la liste de nos points de vente sur notre site. C'est vrai qu'on ne trouve pas partout, mais on a quand même un certain nombre de points de vente sur la rive droite. Et sinon, voilà, sur abonnement. Et on a un site qui est accessible avec pas mal d'articles qui sont déjà voilà, gratuits et qui permettent de se donner un peu une idée des sujets qu'on traite.
D'accord, ben merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup pour cette interview. Donc, on conseille à nos auditeurs éventuellement de se pencher sur l'écho des collines. Et donc, sur ce numéro de février qui couvre majoritairement, enfin, en dossier principal, les petits théâtres de la rive droite. Sur ce, nous allons passer un petit bout de musique avec Piki et son titre « Ça pique un peu » puisque compositrice-interprète franco-coréenne récemment nommée aux Victoires de la Musique en 2026 sera en concert le mercredi 25 février à 20h30 au Rocher de Palmer. Il ne reste que quelques places, donc voilà, si vous voulez aller la voir en concert, dépêchez-vous. Donc on va passer ce titre et ensuite on enchaînera avec l'objectif emploi sur Andy Work qui sera présenté par Chloé. Tout de suite, Piki.
Y'a des pistes dans ses yeux pistaches et je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place. À partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux comme tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la femme, mais y'a rien à faire. Je raccroche mon tel, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça. Ça tombe à pic. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout la haine. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout la haine. Comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des tailles, mais des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout la haine. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout la haine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Emploi, l'émission qui s'intéresse à l'actualité emploi de la région. Aujourd'hui, je reçois Caroline Jousset, responsable régionale, et Tasnim Zareb, chargée de formation et de recrutement chez Andy Work. Bonjour Caroline, bonjour Tasnim.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Caroline Jousset. En effet, je suis responsable régionale d'Handiwork, c'est-à-dire qu'on couvre les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et en effet, je suis accompagnée de Tesnim.
Donc moi, c'est Tesnim Zareb. Je suis chargée de formation et de recrutement donc, pour Handiwork depuis maintenant un an.
D'accord. Donc vous travaillez donc toutes les deux chez Handiwork. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure ?
Oui, bien sûr. Donc au sein de l'antenne de Nouvelle-Aquitaine, nous sommes trois. Nous sommes toutes les deux ici présentes et nous avons également Fanny dans l'équipe qui a le même poste que Tesnim.
Qu'on salue d'ailleurs, qu'on parce que salue. Je l'ai rencontré il y a quelques temps.
En effet, on fait un coucou à Fanny qui est en vacances. Concernant Handiwork, en effet, nous sommes un organisme de formation implanté sur toute la France depuis une dizaine d'années maintenant. Nous sommes un peu plus de 70 au national avec 8 antennes régionales et on couvre l'ensemble du territoire français et on met les mêmes dispositifs en place sur l'ensemble de la France.
Sur l'ensemble de la France. Tesnim, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ?
Oui. Alors du coup, pour vous expliquer mon rôle, c'est de piloter justement les dispositifs de formation. Donc je suis en contact avec les entreprises, les formateurs qu'on recrute et les stagiaires pour assurer le suivi tout au long du dispositif de formation.
Alors, je vais faire un petit encart pour parler chiffres. En 2025, selon le ministère du Travail et des Solidarités, le taux de chômage des personnes en situation de handicap s'élevait à 12% contre 7% pour l'ensemble de la population. Je rappelle tout de même l'existence de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. C'est l'OETH qui stipule que toute entreprise de 20 salariés ou plus doit employer au moins 6% de collaborateurs reconnus en situation de handicap ou assimilés. Si le seuil n'est pas atteint, les entreprises doivent verser une contribution au Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées qui soutient l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est une loi du 5 septembre 2018 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et pourtant les chiffres stagnent depuis plusieurs années. Et justement, c'est dans ce cadre-là que des entreprises peuvent faire appel à vos services, aux services de Handiwork. Comment est-ce que le contact se fait avec les entreprises ?
En effet, pour rebondir sur ce que vous dites, les personnes en situation de handicap sont les premières victimes de discrimination. C'est un des premiers critères de discrimination aujourd'hui en France. Et c'est ce sur quoi on lutte en accompagnant justement les entreprises dans la mise en place de dispositifs de recrutement. Les entreprises, elles nous connaissent de plus en plus, étant donné qu'on est implanté sur l'ensemble du territoire français. Mm-hmm. C'est la chance qu'on a. Donc, elles nous contactent en contact direct. On peut aussi en rencontrer sur des salons. Mais on fait nous aussi tout un travail de prospection qu'on appelle, où on va nous rencontrer des entreprises quand on a connaissance de leurs besoins en recrutement.
D'accord. Est-il possible de faire tous les métiers ? Est-ce qu'il y a des limites dans les entreprises que vous contactez ou qui vous contactent ?
Alors, on va être sur des secteurs d'activité, sur des métiers qui s'apprennent par le geste. Nous, nos formations, nos dispositifs de formation se déroulent 100% en entreprise. Donc, ce sont des formations en situation de travail. Il n'y a pas de partie théorique. Donc, on va être sur des métiers qui s'apprennent par le geste, donc notamment dans les secteurs d'activité suivants, donc grande distribution. Donc, grande distribution, ça peut être le magasin de prêt-à-porter, mais le magasin de bricolage ou le magasin alimentaire. Ça va être tout ce qui est restauration rapide, boulangerie, logistique et hôtellerie.
En effet, et on va être essentiellement sur des métiers qui vont pouvoir s'apprendre en 8 semaines. Voilà, ça c'est une de nos spécificités. Toutes nos formations qui mènent à un emploi vont durer 8 semaines. Voilà, et uniquement, en effet, comme le disait Tesnim, par de la formation en situation de travail. Nous n'avons pas, nous, de salle de classe, de plateau technique. Tout se déroule dans une entreprise qui a des postes à pourvoir.
Et justement, pour ces formations, vous en avez deux différentes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Alors, donc moi, je suis en charge du dispositif Handiwork Recrutement. Donc, l'objectif, c'est de permettre à des personnes, demandeurs d'emploi, d'obtenir du coup un contrat à la fin du dispositif de formation. Donc, très concrètement, c'est un dispositif de formation qui va se dérouler 8 semaines au sein d'une entreprise qui a des postes à pourvoir. Et donc, l'objectif, comme je vous expliquais, c'est que les stagiaires retrouvent un contrat à l'issue de la formation. Le dispositif de formation va être piloté par un formateur expert métier qui va être là sur le terrain pour pouvoir accompagner les stagiaires, les faire monter en compétences, sensibiliser aussi les équipes au handicap sur place, être le lien.
Et ces formateurs d'ailleurs, est-ce qu'ils font partie de l'équipe Handiwork ou est-ce qu'ils sont formés directement au sein des entreprises contactées ?
Alors, nous, on recrute des formateurs experts métiers. Voilà, des formateurs experts métiers. On va les accompagner sur le volet du handicap, mais c'est des formateurs qui sont rattachés à Handiwork.
D'accord. Et vous avez également Handiwork Découverte. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler également?
Tout à fait. Handiwork Découverte est complètement différent, que ce soit en termes de public, en termes de temporalité. Comme le disait Tesnim, recrutement dure 8 semaines et peut être lancé tout au long de l'année selon les besoins en recrutement des entreprises visées. Par contre, Handiwork Découverte est un dispositif qui va durer une année scolaire de septembre à juin, soit 10 mois. Une demi-journée par semaine qui sera la même pendant toute l'année scolaire, ce qui fait une trentaine de sessions, pendant laquelle un groupe de 4 personnes issues d'un même établissement médico-social, donc un établissement médico-social, ça va être un ESAT, un IME, d'ITEP, CESAD, etc. 4 personnes issues de ce même établissement se rendront dans une seule et même entreprise du milieu ordinaire, soit de la grande distribution, soit de l'hôtellerie. Donc ça, c'est des choses qu'on cale avant le mois de septembre, puisque le dispositif se lance 3e semaine du mois de septembre. Et l'objectif de celui-ci, c'est permettre à cette typologie de public, en premier lieu, de découvrir le milieu ordinaire, de découvrir un nouveau métier, de travailler de nouvelles compétences, leur permettre d'être au contact de personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap, leur permettre d'être considérées différemment de leur quotidien, de travailler leur projet, de potentiellement aller vers le milieu ordinaire. Voilà, c'est un dispositif sécurisant qui peut potentiellement aboutir ensuite sur le dispositif recrutement. Voilà. Et sur le même modèle que le premier dispositif, ici aussi nous avons un formateur qui accompagne les stagiaires sur chacune des demi-journées.
Donc les deux dispositifs sont cumulables entre guillemets?
Alors ils ne sont pas cumulables, on ne peut pas les faire en même temps, mais par contre en effet rien n'empêche une personne qui a fait le dispositif découverte, si elle a validé son projet d'aller vers le milieu ordinaire, si toutefois à la fin nous avions un dispositif recrutement dans le secteur d'activité qui l'intéresse, de pouvoir le rejoindre si elle remplit les conditions administratives bien entendu.
Donc c'est un grand parcours qui est possible. Et justement, est-ce qu'il est possible d'intégrer une formation en cours d'année ou démarrer à tout moment?
Alors, sur le dispositif Handiwork Recrutement, nos dispositifs peuvent se lancer à tout moment, tout au long de l'année. Par contre, sur Découverte, comme Caroline vous le disait précédemment, c'est différent, c'est sur une année scolaire de septembre jusqu'à juin.
C'est un parcours par an ou est-ce qu'il y en a plusieurs simultanément?
Alors, tout le travail de notre travail est de constituer des binômes entre un établissement médico-social et une entreprise. Une entreprise qui va donc pouvoir accueillir les 4 stagiaires d'un même établissement pendant toute l'année. Mais en effet, il y a des personnes qui vont abandonner en cours de route pour X ou Y raison. Il va y avoir des maladies, des choses comme ça. Donc, on a une liste d'attente avec du coup des personnes qui sont sur liste d'attente qui vont pouvoir remplacer les personnes absentes. Donc, finalement, on peut dire que ces personnes vont pouvoir commencer en cours d'année. Mais l'objectif du dispositif est qu'il dure 32 sessions de septembre à juin. Par contre, en effet, recrutement, il peut se lancer tout au long de l'année. On compte à peu près 2 mois pour mettre en place ce type de dispositif, recrutement.
D'accord. Et j'avais noté sur notamment Handiwork Recrutement que ces 8 semaines étaient réparties de manière différente. Il y a des semaines de formation, puis il y a de l'intégration et enfin, il y a de l'autonomie. Est-ce que vous avez parfois justement des craintes des personnes qui d'un coup se retrouvent en autonomie en entreprise?
Alors, en tant que chargée de formation et de recrutement, mon objectif, c'est, comme je vous disais, d'assurer le suivi du dispositif et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de parcours. C'est-à-dire que moi, je vais être vraiment en charge d'assurer un suivi individualisé et personnalisé. C'est-à-dire que même si, effectivement, il n'y a pas le formateur au cours des dernières semaines pour justement qu'il y ait cette autonomisation progressive, je vais rester en contact avec les stagiaires, c'est-à-dire que je vais les contacter par téléphone, leur faire des mails, afin de m'assurer que tout se passe bien. Je suis en contact aussi avec les entreprises tout au long du dispositif.
D'accord. Et je trouve ma dernière question. Comment vous assurez-vous qu'une entreprise est apte à recevoir des personnes en situation de handicap? Quand on s'était contacté au téléphone, vous m'aviez dit, Caroline, que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible.
Oui, tout à fait. Il y a tout un process avant de lancer le dispositif recrutement, hein, puisque, on le rappelle, hein, sur le dispositif en recrutement, on cherche vraiment à ce que les personnes soient recrutées, signent un contrat de travail à l'issue du dispositif. C'est le deal avec les entreprises, contrairement à Découverte où, à la fin du dispositif, arrivé à fin juin, libre aux entreprises de faire signer un contrat ou pas. De ce fait, pour recrutement, on sécurise pendant des semaines avec l'entreprise. Ça va être déjà des premiers échanges qu'on va avoir avec l'équipe et avec l'entreprise pour mesurer aussi la sensibilité de l'entreprise par rapport au sujet du handicap. Qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent? Le fameux taux des 6% que vous aviez cité au début. Leur implication, est-ce qu'ils sont ouverts à mettre en place des aménagements de poste ou pas? Et ensuite, il y a une date d'audit qui est calée avec l'entreprise avec laquelle nous discutons, qui est réalisée par l'équipe, donc par Tesnim ou Fanny, si tu veux peut-être en parler.
Oui. Alors l'objectif de l'audit, c'est qu'on puisse donc se rendre au sein de l'entreprise, qu'on puisse échanger avec la personne référente au sein de l'entreprise. On va co-construire aussi le parcours de formation, on va faire une visite de poste et on va établir aussi une liste de prérequis relatifs au métier.
Est-ce que vous avez souvent beaucoup de modifications à faire dans l'environnement de travail? Est-ce que vous avez une petite checklist pour faire en sorte que tout se passe bien?
Par rapport aux stagiaires, on va vraiment faire, on va individualiser, c'est-à-dire on va faire en fonction, c'est-à-dire pour certaines personnes, il n'y aura pas forcément besoin d'aménagement de poste, et parfois oui, il y aura besoin, donc c'est à ce moment-là où on peut intervenir et on va du coup se rapprocher des services de l'emploi comme Cap Emploi.
Parfois, quand on parle d'aménagement de poste, ça peut faire peur aux entreprises. Mais finalement, un aménagement de poste, ça peut être trois fois rien. C'est-à-dire que ça peut être mettre en place une pause supplémentaire pour telle ou telle personne, pour X ou Y pathologie. Ça peut être aménager des horaires, tout comme ça peut être commander du matériel. On a eu le cas quelques fois.
Oui.
Peut-être pour donner un exemple.
Oui, tout à fait. On avait eu le cas d'une personne qui travaillait en restauration rapide. Donc le dispositif était en restauration rapide. Et les bruits en cuisine, ça l'a gênée, ça l'a perturbée. Donc elle m'a fait remonter cette information. Et on s'est rapproché du coup de Cap Emploi et on lui a mis en place un casque réducteur de bruit. Donc après, le fait qu'elle ait eu le casque, ça a été très bien.
C'est bien pour les entreprises de comprendre que justement, il ne faut pas... démonter tout le bâtiment pour accueillir.
Oui. Exactement.
Tout à fait.
Exactement. Et c'est tout l'intérêt d'avoir le formateur dans l'entreprise pendant les 8 semaines. C'est de pouvoir accompagner autant le public que l'entreprise sur l'intégration, puisque l'objectif à la fin, c'est certes de signer un contrat de travail, mais c'est de rester sur son poste. Donc le dispositif permet vraiment de sécuriser et de pérenniser les emplois.
Et les contrats qui sont signés sont majoritairement des CDD, des CDI?
Majoritairement, ce sont des CDI qui sont signés.
Ouais, j'imagine que du coup, ça fait plaisir à tout le monde. Vous, qu'est-ce que ça vous fait justement quand, à la fin, on signe un joli contrat grâce à Handiwork?
C'est toujours émouvant, surtout quand on organise donc deux bilans. Et le bilan final, c'est le moment où on évoque les modalités des contrats et où les stagiaires signent les contrats. Effectivement, c'est toujours émouvant de voir la satisfaction dans les yeux de ces futurs professionnels. Donc, c'est gratifiant de participer à un projet inclusif qui a du sens.
En effet, en Nouvelle-Aquitaine, on a ouvert l'antenne il y a maintenant un an. Et quand on regarde les chiffres, on a permis à un peu plus de 50 personnes de signer un contrat de travail, donc de retrouver une place dans une entreprise. Et ça, c'est très gratifiant et ça valorise beaucoup notre travail. On sait pourquoi on vient le matin, on sait pourquoi on a des échanges pendant des heures avec des entreprises pour les convaincre de mettre en place ce type de formation pour ce public.
Ah ben c'est des beaux messages, en tout cas. Alors pour la suite, comme nous sommes ici pour parler d'offres d'emploi, vous êtes une petite équipe sur Bordeaux, on l'a dit. Est-ce qu'il y a justement des postes à pourvoir chez Handiwork? Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour déposer une candidature?
Alors en effet, il y a plusieurs postes chez Handiwork, de manière générale. Ce que je dis là, c'est valable pour l'ensemble des antennes. Vous avez des équipes donc, qui sont constituées donc, d'un ou d'une responsable régionale, ensuite de chargés de formation et de recrutement, et ensuite, nous avons des formateurs. Nous recrutons en permanence des formateurs pour dispenser nos deux dispositifs, puisque les principaux formateurs que nous avons sont en contrat freelance, puisqu'on n'a pas la capacité à leur donner du travail tout au long de l'année, et surtout, à chaque fois, on va chercher un formateur qui vient du secteur d'activité visée, puisqu'on le disait, on fait appel à des formateurs dits experts métiers. Donc, si des personnes sont formateurs, viennent du secteur d'activité de la grande distribution, de la restauration, de l'hôtellerie logistique, seraient intéressées pour dispenser des dispositifs, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On reçoit très souvent des candidatures de formateurs. Après, concernant nos équipes sur le terrain, pour l'instant, on ne recrute pas. Ceci dit, lorsque ça arrivera, ce sera plutôt sur l'autre dispositif, sur le dispositif découverte. Et on publie les offres sur notre compte LinkedIn, notamment. LinkedIn, donc, il ne faudra pas hésiter à nous suivre. Et puis, à nous envoyer des candidatures spontanées. Elles sont toutes traitées par le service RH. On transfère toutes les candidatures qui est au siège social à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard.
D'accord. Et pour les entreprises qui voudraient, elles, vous contacter pour justement faire appel à HandiWork?
Eh bien, tout pareil. elles peuvent nous contacter par téléphone, par mail. Peut-être qu'on mettra nos coordonnées après sur votre site, sur LinkedIn. HandiWork a bien sûr une page LinkedIn. Toutes les trois, nous en avons une également. C'est vrai qu'on travaille avec une soixantaine d'enseignes au national, donc ça commence à être pas mal. On commence à être assez connus. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, même si c'est juste pour échanger, ne sachant pas trop si on pourrait mettre en place ce type de dispositif. Voilà, faut pas hésiter, on en discute, on voit si c'est envisageable ou pas.
D'accord. On peut vous retrouver également sur des salons de l'emploi ou sur des formations en entreprise, c'est ça?
Oui, tout à fait. On participe en tant que chargée de formation et de recrutement à pas mal de salons, donc il faut pas hésiter. Oui.
D'accord. Et pareil, on peut retrouver votre agenda sur vos réseaux sociaux.
Alors, on essaye en effet de relayer au maximum notre actualité sur LinkedIn. Voilà, c'est le réseau sur lequel on communique majoritairement. On est beaucoup sollicité par les acteurs de l'emploi, comme France Travail, la Mission Locale, les Plis, pour participer à des forums spécifiques sur le handicap ou plus largement sur la question de l'emploi et sur les 12 départements.
Très bien. Avant de passer à la rubrique d'annonces salon et emploi, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé?
De dire au public qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Il faut en échanger, voir ce qu'il est possible de faire. On essaye d'accompagner toute personne. Nous, on ne met pas l'accent sur le handicap. On met l'accent sur les compétences. Quand on met en place un dispositif dans une entreprise, on va bien spécifier les prérequis obligatoires, la station debout, l'exposition au bruit, ce genre de choses. Ce sont des exemples. Après, on ne met pas le doigt sur le handicap parce qu'on essaye de lutter justement contre les discriminations. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à en parler également à son conseiller, Mission Locale, PLI, France Travail, puisque la majeure partie des acteurs sur la Gironde nous connaissent.
Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on saura où vous trouver.
Avec plaisir.
Très bien. Alors, passons aux annonces avec, pour commencer, les salons. Le salon professionnel revient du 26 au 27 février de 9h à 17h à l'hôtel de ville de Bordeaux à la place Péberlan. Ce salon s'adresse aux femmes en reconversion et en recherche d'évolution professionnelle. Au programme, des conférences, ateliers pratiques et rencontres avec des expertes de l'emploi et de la formation. L'entrée est gratuite sur inscription en ligne. Plus d'infos sur salonprofessionnel.com. L'édition 2026 du salon Aquitech se tiendra du jeudi 26 au samedi 28 février au parc des expositions à Bordeaux-Lac. Vous y retrouverez des centaines d'intervenants qui vous proposeront de découvrir leur formation et parcours d'études supérieures. Si vous êtes lycéen, étudiant ou en reconversion professionnelle, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site aquitech.com. Et maintenant pour les offres d'emploi. Les entreprises de l'aéroport de Bordeaux recrutent lors d'une journée Destination Emploi. Plusieurs postes sont à pourvoir dans les secteurs de différents, comme la vente, la restauration, le transport et bien d'autres. Pour vous inscrire, allez sur mesévénementsemploi.francetravail.fr. L'entreprise Les Petits Cajots cherche un chauffeur-livreur avec préparation de commande pour un CDD de 4 mois. Le travail s'effectue en 35 heures du mardi au samedi et le permis B est exigé. Pour plus d'informations, contactez votre conseiller France Travail ou consultez le site contact.francetravail.fr. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci Caroline, merci Tasnim d'avoir été avec nous pour cette émission et de nous avoir présenté HandiWork. Nous pouvons suivre votre actualité sur LinkedIn donc. Merci d'avoir suivi Objectif Emploi sur O2 Radio 91.3. À dans 2 semaines.